Bonsoir. Assemblée nationale, présentation hier lundi du projet de budget 2016 par le Premier ministre. Ce budget estimé à 9 milliards 121 millions de dollars américains est jugé réaliste par certains députés de la majorité présidentielle, alors que ceux de l'opposition militent pour son rejet. Quelle lecture faire de ce projet de budget? Nous en parlons avec Christian Moindo, il est député national, il est cadre de l'UNADEF, parti de l'opposition, il est aussi ministre honoraire de l'économie et des finances de l'ancienne province du Katanga. Bonsoir Christian Moindo.
Bonsoir.
Christian Go, il est député national et il est cadre du RIDEC, parti de la majorité présidentielle. Il est aussi l'un des communicateurs de la majorité présidentielle. Bonsoir Christian Go.
Bonsoir.
Et Robert Kabakela, il est coordonnateur national adjoint de la nouvelle société civile du Congo. Bonsoir Monsieur Robert Kabakela.
Bonsoir, merci.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Assemblée nationale, le projet de loi des finances exercice 2016 débattu hier lundi à l'Assemblée nationale, un budget fixé à 8 437,4 milliards de francs congolais, l'équivalent de 9 milliards 121 millions de dollars américains, est équilibré en dépenses comme en recettes. D'après le Premier ministre qui l'a présenté et défendu devant les élus nationaux, c'est un projet de budget plutôt réaliste. Augustin Matata Ponyo a tenu également à rappeler que ce budget est élaboré dans un environnement international plutôt difficile. Mimi Ngumba Mulongo.
L'environnement auquel fait allusion le Premier ministre Matata Ponyo est caractérisé, d'après lui, par la baisse du prix des matières premières importantes, une situation qui a des répercussions directes sur le trésor public congolais.
À titre d'illustration, la société minière KCC a annoncé l'arrêt de sa production durant une période de 18 mois. Cette société produisait environ 15% du total de la production du secteur minier. Cela priverait au trésor public près de 200 milliards de francs congolais au cours de l'exercice prochain.
S'agissant du financement des élections, Matata Ponyo a rassuré que les ressources prévues à cet effet sont suffisantes.
Évaluées à 537,8 milliards de francs congolais, soit 500 milliards sur ressources propres et 37,8 milliards sur ressources extérieures.
Le Premier ministre a aussi évoqué les mesures d'encadrement prises par le gouvernement en vue de capitaliser les recettes.
La réduction de l'enveloppe des frais de fonctionnement des institutions, la réduction des frais d'émission à l'étranger, la limitation du nombre d'émissions à l'étranger, le gel de l'octroi des heures supplémentaires.
Il y a donc lieu que la Chambre basse examine ce budget et l'adopte, a soutenu le Premier ministre.
Merci Mimi Ngumba Mulongo. Christian Moindo, je rappelle que vous êtes député national, vous êtes cadre de l'UNADEF, parti de l'opposition, vous êtes aussi ministre honoraire de l'économie et des finances de l'ancienne province du Katanga. 9 milliards 121 millions de dollars américains, montant du budget exercice 2016. Votre réaction?
Ma réaction, c'est tout simplement de dire que c'est un budget qui est tout à fait défaitiste, parce que le montant que vous venez de citer n'est pas le montant correct. Le montant correct est de 8 437 milliards de francs congolais.
Qui font combien en dollars?
Qui font plus ou moins, je dirais, 9 milliards de dollars. Et ce montant, en fait, est en régression par rapport au montant qui a été voté en 2015.
Chose qu'a reconnu le Premier ministre.
Oui, je pense le Premier ministre doit quitter la culture de ramasseur-cueilleur, parce que le Premier ministre a érigé un mur de lamentation pour dire que ce que nous avons toujours cueilli en termes de récolte des produits miniers, nous n'allons plus pouvoir le cueillir aujourd'hui. Donc le Premier ministre n'a créé aucune richesse. Lorsque vous voyez le plan que le Premier ministre avait présenté lorsque la mandature ici a commencé, le Premier ministre nous avait promis qu'au à l'horizon 2016, on aurait dû être à plus ou moins 15 milliards de recettes. Et le Premier ministre ne cesse de se vanter et de se targuer de la croissance soutenue. En quoi se traduit cette croissance? Parce que lorsque je regarde en 2014, nous étions à 8 273 milliards. En 2015, nous étions à 8 496 milliards de projections, ce qui n'a pas été réalisé parce que nous parlerons d'exécution. Et en 2016, nous sommes à 8 437 millions. C'est à 8 437 milliards. Donc, ce qui veut dire que le budget pour la projection 2016 est en régression. De quoi le Premier ministre peut-il se vanter et de quoi va-t-il nous parler par rapport à sa croissance soutenue?
Voilà, vous reconnaissez que le budget est en baisse. Le Premier ministre qualifie, en dépit de cela, il qualifie ce projet de budget de réaliste. Et pour justifier cela, il relève trois facteurs. Le premier, le budget est élaboré, selon lui, dans un environnement international difficile caractérisé par la baisse des prix des matières premières. Et deuxièmement, il est élaboré dans un contexte de préparation des élections. Et troisièmement, il est élaboré dans un contexte de découpage territorial.
Le Premier ministre, qu'a-t-il apporté de nouveau depuis 2014? Parce que depuis 2014, nous faisons de la stagnation. Je pense que le Premier ministre devrait faire un peu preuve d'imagination et il devrait développer ce pays. La révolution de la modernité dont on ne cesse de nous chanter est globalement un échec. Parce que nous sommes en régression par rapport à ce que nous avions prévu pour 2015.
Alors, lorsqu'on arrive à élaborer un tel budget dans un contexte aussi difficile comme l'a relevé le Premier ministre, ne faut-il pas, féliciter les efforts que le gouvernement a fournis?
Le contexte est difficile pour le Premier ministre parce que le Premier ministre ne compte que sur le ramassage des fonds concernant les sociétés minières et les industries pétrolières. Le Premier ministre n'a pas pu créer de nouvelles richesses. Il s'agit pour lui d'un échec. Parce que lorsque il avait présenté son plan quinquennal, il devait y avoir une évolution. Le Premier ministre ne doit pas nous parler des produits miniers. Le Premier ministre doit nous parler des richesses qui ont été créées entre le moment où il a été nommé et aujourd'hui. Or, on se rend compte que le Premier ministre ne compte que sur la récolte des produits miniers. Mais ça, ce n'est pas normal.
Honorable Christian Moindo, je rappelle ici qu'il y a peu, vous étiez ministre de l'économie et des finances dans l'ancien gouvernement de l'ancienne province du Katanga. Et donc, vous avez fait partie, n'est-ce pas, de ce système que vous semblez aujourd'hui, dont vous semblez aujourd'hui fustiger la gestion.
Je vais juste vous dire que depuis que nous avions, avec l'honorable Moïse Katumbi, pris la gestion de la province du Katanga, nous avions pu multiplier les recettes de la province du Katanga par 20. Ces recettes, qui représentaient plus ou moins 20 millions de dollars, au moment où nous avons laissé la province du Katanga, ces recettes sont passées plus ou moins à 400 millions de dollars. Ça veut dire qu'il y a eu création de richesses au niveau du Katanga.
Voilà. Selon le Premier ministre, ce budget prévoit des ressources suffisantes. Ça, c'est le Premier ministre qui l'a souligné, des ressources suffisantes pour les financements des élections. Plus de 580 millions de dollars qui sont prévus pour l'organisation des élections. Vous savez que l'un des enjeux, n'est-ce pas, de ce budget, c'est la tenue des élections. Et ça a toujours été une des préoccupations de l'opposition qui estime qu'on doit donner assez de moyens, assez des ressources pour que ces élections puissent être organisées dans de bonnes conditions. Voilà que le Premier ministre vient de prévoir plus de 580 millions de dollars pour organiser ces élections.
Oui, les élections, je pense que toutes les élections à tous les niveaux sont autour de plus de 1 milliard de dollars américains. Le Premier ministre, comme l'a dit l'honorable Lutundula hier au sein de l'hémicycle, nous a convaincu effectivement qu'avec l'argent qu'il a prévu, les élections présidentielle et les élections des députés nationaux pourront bien avoir lieu, donc il n'y aura pas de glissement à ce niveau-là. Pour ce qui est des élections locales et des élections provinciales, il y a encore questionnement parce que le budget tel que prévu n'est pas suffisant pour couvrir tous les niveaux. Donc, au niveau de l'opposition, nous sommes convaincus que les élections présidentielles auront bel et bien lieu et les élections au niveau des députés nationaux auront bel et bien lieu. Donc, il n'y a aucune raison que ces élections soient reportées ou soient remises à plus tard. Et ça, nous félicitons le Premier ministre pour ça, parce qu'au moins, ça c'est sûr, et le peuple congolais devrait en être rassuré que nous aurons les élections présidentielles au mois de novembre de 2016.
Honorable Christian Mwando, vous semblez vous insurger sur le fait que chaque fois, il y a des budgets qui sont votés, mais qui ne sont pas exécutés comme il se doit, mais vous ne dites rien en ce qui concerne, n'est-ce pas, les caractères irréalistes et irréalisables de ces différents budgets. On se rend compte en amont que ces budgets qui sont présentés, les différents budgets qui sont présentés par le gouvernement, sont irréalistes, et en aval, on se rend compte que ces budgets ne sont pas réalisables. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela, alors qu'on sait que les ressources ne manquent pas? Vous étiez vous-même l'argentier au Katanga pendant longtemps.
Je vous ai bien dit qu'ayant été argentier du Katanga, j'ai pu multiplier par 20 les ressources de la province. Donc, en ce qui concerne l'exécution de budget, c'est le gouvernement lui-même qui présente ses projets de budget. Et je pense qu'il y a plus de problèmes dans l'exécution du budget que dans la réalisation, dans la programmation. Parce que lorsque vous êtes devant un gouvernement qui n'a pas d'imagination pour créer les différentes ressources, lorsque vous êtes devant un
système dans lequel vous avez vous-même fonctionné.
J'ai fonctionné en tant que ministre et je vous ai dit, et je crois que si vous venez au Katanga, vous allez voir que le Katanga, c'est autre chose que ce qui se passe à Kinshasa. Lorsque nous constatons, par exemple, que le gouvernement central dépense presque 226 milliards de francs congolais, soi-disant pour l'appui au processus de prise de décision publique, et qu'il dépense 41 milliards pour les investissements dans les provinces. Il y a un réel problème de gestion au niveau du gouvernement central.
Merci, Crispin Goy. Je rappelle que vous êtes député national, cadre du RIDEC, parti de la majorité présidentielle. Vous êtes l'un des communicateurs de la majorité présidentielle. Le Premier ministre a présenté les projets de budget exercice 2016, dont le montant est estimé à environ 9 milliards 121 millions de dollars américains, qu'il lui-même juge réaliste. Au vu de tous les défis à relever, notamment les élections, les revendications sociales, les réformes institutionnelles, on peut dire aujourd'hui que ce budget est réaliste au vu de tous ces défis-là?
Merci beaucoup. Avant que je puisse répondre brièvement à votre question, vous allez me laisser un peu m'acquitter des règles et devoirs. D'abord, de porter mes remerciements au chef de l'État, au président de la République, pour avoir nommé au niveau de la majorité présidentielle les hommes que nous jugeons qu'il faut à la place qu'il faut. Et là, je citerai l'honorable Joseph Kokonyangi, qui est le nouveau secrétaire général adjoint, sans oublier aussi notre ami et frère, l'ambassadeur Alain Atundu, qui sont là, avec qui nous constituons une équipe forte pour redresser, pour tenir bon, afin que toutes les promesses, afin que toutes les missions confiées à notre majorité puissent...
Honorable Christian Goy, est-ce que ce budget est réaliste au vu des défis?
Oui, je vais en parler maintenant. Le budget en soi, c'est un projet, comme on l'appelle d'ailleurs projet de budget. Le Premier ministre, qui est en train de piloter le gouvernement, il a fait le calcul, il a observé, il a vu dans son environnement ce qu'il lui faut pour l'année 2016. Et c'est ainsi qu'il a amené ce projet de budget au niveau de l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce jour, ce projet de budget qui est amené au niveau de l'Assemblée nationale n'est pas encore un budget définitif, n'est pas encore une loi. Voilà pourquoi on le dépose au niveau de l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée nationale puisse entrer dedans, pour voir la réalité, pour voir corriger tout ce qu'il faut corriger, et après, il sera soumis, bien sûr, à la plénière, et ce n'est qu'après qu'on pourra sortir une loi de finances qui sera exécutoire. Alors, mais en réalité, en voyant, puisque nous ne devons pas nous voiler en face, nous sommes dans notre pays, nous connaissons déjà les réalités de notre pays, et le Premier ministre l'a expliqué, pourquoi ce budget est arrivé à ce niveau de 9 milliards, et il a été élaboré dans les conditions international très très difficile, compte tenu des réalités, compte tenu des richesses que nous avons. Dans notre pays tel que nous sommes là, aujourd'hui, effectivement, nous vivons beaucoup plus des impôts et de quelques produits miniers, et il en tient votre compte. Mais je suis un peu surpris de voir ou d'entendre mon très cher collègue Christian Mondo, qui lui venait de s'asseoir sur les belles sommes de richesses au niveau du Katanga, qui peut-être il a abandonné ses sièges, puisque peut-être ça commençait à lui faire déjà mal, et il se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et il va dire que le gouvernement, piloté par le Premier ministre, n'a pas pu évoluer. Or, vous savez que le budget que le Premier ministre présente, c'est un budget national. Et ce budget national rassemble le budget même de toutes les provinces qui sont là-dedans.
Et il a même rappelé qu'il a multiplié par 20, n'est-ce pas, les recettes de la province.
Il a multiplié par 20, et ça c'est lui, et ça n'engage que lui, et d'ailleurs c'est un chiffre que je viens d'apprendre, nous allons bien le vérifier, pour voir si réellement il a multiplié, quels sont les emplois qu'on a créés dans le Katanga, mais nous ne pouvons pas le condamner pour cela. Donc s'il l'a fait, tant mieux, mais nous allons essayer un peu de vérifier, mais il ne peut pas s'emporter ou bien réagir contre le gouvernement, d'autant plus qu'il est acteur principal de l'élaboration des budgets de 2012, 2013, 2014 et 2015.
Honorable Christophe Ngoï, selon le Premier ministre, le budget prévoit, il a même souligné, des ressources suffisantes pour le financement des élections. Oui. C'est plus de 580 millions de dollars américains. Or, le budget global des élections est estimé à plus d'un milliard selon la CENI. Alors, il y a des experts qui parlent des éventualités. Il y a des éventualités. Soit on va organiser des élections bâclées parce qu'il n'y aura pas assez de ressources pour organiser ces élections. Soit on va utiliser cela comme prétexte pour ne pas organiser des élections parce que 500 millions ne seront pas suffisants pour organiser toutes les élections.
Le budget est annuel. Le Premier ministre a dit que dans ce budget, ce qu'il a prévu pour les élections, ce sont des ressources suffisantes. Nous ne pouvons pas aller tout droit aux déductions qui ne peuvent pas aboutir à des bons résultats. Le budget n'est pas quinquennal. Le budget n'est pas pour 2 ans, pour 3 ans. Le budget est annuel. Dans ce budget annuel 2016, voilà ce que le Premier ministre a prévu. Donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin, à moins d'exprimer tout simplement la mauvaise foi ou l'incapacité de compréhension de cela. Le Premier ministre a été très clair, il n'y a pas à spéculer là-dessus.
Alors, la baisse du prix plutôt des matières premières, une des raisons avancées par le Premier ministre pour justifier cette baisse du budget 2016, une baisse de plus de 63 millions de dollars américains. Et cette baisse n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis les années 2010-2011 que l'on parle de la chute des cours, n'est-ce pas, des matières premières. Mais pourquoi cette baisse n'avait pas affecté les budgets 2012, 2013, 2014, pourquoi ça affecte seulement le budget 2016?
Cette baisse est progressive. La manière dont elle a été en 2011, en 2012, ce n'est pas de la même manière qu'elle se manifeste aujourd'hui. C'est tout à fait normal que lorsque cette baisse avait commencé depuis ce moment-là, c'est tout à fait normal que les conséquences se répercutent aujourd'hui. Donc, ce que nous voulons, c'est quoi? Il ne faut pas amener les chiffres pour les chiffres. Le peuple congolais s'est habitué à voir des grandeurs de chiffres. Qu'on amène un budget de 180 milliards, par exemple, ou 200 milliards, mais qui ne sont pas la réalité. Mais le Premier ministre a préféré être réaliste. Il a vu ce qu'il y a, ce qui passe entre ses mains. Il a vu ce qu'il est en train de produire. Et il a donné ce budget. C'est un budget réaliste.
Oui, il a pas. Vous pensez que c'est un budget réaliste dès lors qu'il ne sera pas en mesure de répondre aux attentes, n'est-ce pas, de toute la société congolaise?
Écoutez, les attentes de toute la société congolaise seront répondues au fur et à mesure que le travail est en train de se faire. Vous êtes sans ignorer. D'abord, il faut quand même être conscient, il faut avoir la bonne foi pour reconnaître les efforts du Premier ministre. Vous connaissez bien que dans ce pays, nous avons été dans des budgets qui étaient de moins d'un milliard. Et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à 9 milliards. Ça a été multiplié quand même par 9. Il faut reconnaître cela. C'est-à-dire, c'est un effort qui est en train d'évoluer et avec le temps. Et vous connaissez vous-même que ce qu'on peut planter aujourd'hui ne sera pas, ne pourra pas produire les résultats demain ou le lendemain. Il faut prendre un temps pour que les jalons qui sont plantés aujourd'hui puissent produire les résultats dans le futur.
On a distingué brièvement, c'est toujours bon d'élaborer les budgets, mais on s'est rendu compte que dans ces pays, la grande préoccupation, n'est-ce pas, c'est la réalisation de ces budgets. Nous avons du mal à réaliser les budgets que nous-mêmes nous élaborons. Comment vous expliquez cela?
Cela s'explique tout simplement par le fait que, vous voyez les mécanismes qui sont mis en place, les systèmes, la manière dont ça a été installé dans notre pays il y a une trentaine d'années, fait qu'il faudrait beaucoup de temps, il faudrait beaucoup de technicité, il faudrait beaucoup de tactique pour que la collecte des ressources, des recettes puisse se faire correctement. Puisque dans notre pays, ce n'est pas tout ce qu'on produit qui entre dans les trésors publics. Il y a beaucoup de fuites à l'extérieur. Il y a beaucoup de fuites dans les poches des gens. Et voilà pourquoi plusieurs réformes sont en train d'être mises en place pour permettre à ce qu'il n'y ait pas coulage des recettes. C'est pour permettre à ce que, au fur et à mesure que les Congolais se mettront au travail, au fur et à mesure que la fraude va baisser, au fur et à mesure que la tricherie va baisser, au fur et à mesure que la corruption va diminuer, merci, et on aura à récolter les fonds qu'il nous faut. Et c'est là, à ce niveau-là, que j'essaye un peu de revoir mon merci collègue Christian Mando. Qui pouvait, lui, vous savez que les Katanga, c'est les poumons de l'économie, d'ailleurs, de
merci
la République démocratique
du Congo, on vous a compris.
Qui, lui, devrait mettre Robert en place Kabakela. Un système pour permettre à ce que les recettes puissent s'émaner.
Robert Kabakela, vous êtes coordonnateur national adjoint de la Nouvelle Société Civile du Congo. Votre analyse par rapport au projet de budget présenté hier par le Premier ministre à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup. Nous avons suivi la présentation du Premier ministre de ses projets de loi, de ses projets de budget à l'Assemblée nationale. Nous, en tant que citoyens, nous, en tant que population, nous sommes plutôt intéressés à autre chose. Pas les chiffres, en régression ou en progression. Nous sommes plutôt intéressés à savoir que prévoit ce budget en rapport avec l'effectivité de la gratuité, n'est-ce pas, de l'enseignement fondamental pour nos enfants. Que prévoit ce budget pour donner à la population, au dernier Congolais, l'eau potable? Que prévoit ce budget pour permettre au dernier Congolais d'avoir l'électricité? Parce que, semble-t-il, nous avons, n'est-ce pas, le plus grand barrage de l'Afrique centrale ou de l'Afrique tout court.
Le plus grand potentiel électrique en Afrique.
En Afrique. Que prévoit ce budget pour rendre effective la décentralisation? Que prévoit ce budget pour, n'est-ce pas, nous organiser finalement les élections sécurisées, les élections crédibles? Que prévoit ce budget pour donner à nos jeunes qui terminent à l'université aujourd'hui de l'emploi, pour créer de l'emploi, alors de l'emploi décent? Voici ce genre de questions qui nous intéressent. Il semble que jusqu'à ce jour, et d'ailleurs, le budget 2015 avait comme priorité, c'est le premier ministre qui l'avait dit, l'éducation, la santé, la défense et la sécurité. Mais il semble que jusqu'à ce jour, nos enfants, par rapport à l'enseignement fondamental, continuent à prendre en charge. Nous continuons, vous êtes Congolais, vous êtes
en charge les enseignants.
Nous continuons à prendre en charge les enseignants. Jusqu'à ce jour, dans nos hôpitaux, lorsque vous y allez, les gens meurent parce qu'il n'y a pas des aspirines, parce qu'il n'y a pas de soins appropriés. Et donc, voici les questions qui nous intéressent par rapport au budget. Pas plus tard qu'il y a deux jours, à Lubero, il y a la ville morte parce qu'il y a l'insécurité. On kidnappe les gens, on tue les citoyens là-bas. Voici ce que nous attendons en tant que citoyens, en tant que population, en tant que société civile. Par rapport au budget, on peut nous parler de la croissance. Mais la croissance, nous devons la vivre. La croissance, quand j'ai suivi un député, un des rares députés qui, pendant ses vacances parlementaires, rentre, n'est-ce pas, à sa base pour faire la restitution. Il doit être un député de l'Équateur, qui on lui a posé la question de savoir, mais messieurs les députés, vous nous parlez de la croissance. Vous, le Premier ministre nous parle d'être des bons élèves. C'est dans quelle école où vous êtes des bons élèves? La croissance, il s'agit de quelle croissance? Mais nous voulons que la croissance soit matérialisée à travers le panier de la ménagère. Et donc on doit quitter le sachet qui d'ailleurs continue à se rétrécir. C'est ça, ce qui nous intéresse en tant que citoyens. Et donc, nous disons que ce budget doit être un budget qui doit répondre à toutes ces questions. Un budget qui doit répondre aux conditions de travail des fonctionnaires. Un budget qui doit répondre aux soldes de nos vaillants combattants, soldats et policiers. Un budget qui, finalement, doit permettre aux enseignants de savoir pourquoi ils sont dans des salles de classe. Parce que vous imaginez aujourd'hui, nos enfants, vous avez des enfants qui partent à l'école, l'enfant rentre et dit, papa, je n'ai pas mangé mon beignet parce que madame avait demandé. Je n'ai pas pris mon coca qui était dans le sac parce que madame avait dit qu'il devrait prendre ça. Voilà c'est à quoi nous voulons que les budgets répondent. Parce que les budgets, pour nous, c'est doit être une réponse à toutes ces questions qui se posent dans la société. Le budget doit refléter effectivement, n'est-ce pas, la réponse ou les réponses aux questions, aux problèmes qui se posent dans la communauté. Il semble malheureusement que le budget que nous avons, c'est un budget qui répond à certaines écoles. L'FMI, la Banque mondiale, voilà les budgets qu'on nous présente.
Voilà, les budgets présentés hier par le Premier ministre Matata Ponyo connaît une baisse de plus de 63 millions de dollars américains et cela intervient dans un contexte difficile où les attentes sont énormes. Vous avez cité certaines de ces attentes ici. Vous avez parlé de l'effectivité, de la gratuité de l'enseignement et vous avez parlé de donner de l'eau potable à la population, de l'électricité. Vous avez parlé en fait des questions qui touchent au social. Est-ce qu'un budget qui connaît une baisse peut vous rassurer, vous, de la société civile?
Écoutez, j'ai entendu quelqu'un sur cette table que c'est un budget, le Premier ministre ou le gouvernement se contente de ramasser les budgets dans des secteurs miniers. Mais il faut avoir de l'imagination. Il faut penser au secteur porteur, n'est-ce pas, de richesses, de ressources. Il n'y a pas que les secteurs miniers. Nous sommes un pays qui regorge des potentialités énormes. Ce n'est pas des intelligences qui nous manquent dans ce pays, pour imaginer, n'est-ce pas? Ce n'est pas... Nous avons les plus grands savants dans notre pays, à ce que je sache. Ils doivent imaginer autre chose que de nous laisser tout le temps parler du secteur minier, pendant... que d'ailleurs des investissements faits dans ce secteur. On doit diversifier notre économie pour nous permettre de vivre, pour nous permettre, n'est-ce pas, d'accéder aux besoins sociaux de base. Je vous ai dit, cher Guy, que nous avons des compatriotes qui sont chassés de Brazzaville, du Congo-Brazzaville. Nous avons des compatriotes qui sont chaque jour chassés de l'Angola. Mais le gouvernement, quel est son travail? Qui peut se sentir mieux ailleurs que chez soi? Donc nous disons que le gouvernement doit être à même de répondre. Mais allez sur l'avenue Kabambar, vous allez avoir honte de voir ses compatriotes chassés, ils sont revenus chez eux. Mais le gouvernement n'est pas à même de prendre en charge ses enfants. Est-ce que dans ces budgets, on a prévu la réponse à ces problèmes? Voici autant de questions qui se posent et donc on doit avoir de l'imagination pour répondre à ces questions au lieu de venir nous dire que le budget est passé de 9 milliards à 10 milliards, le budget était de 8 milliards et aujourd'hui, ça, qu'est-ce que ça va?
Merci.
Qu'est-ce que cette maman de Kasumbalesa, cette maman qui habite le dernier village de la RDC va comprendre de l'augmentation des chiffres et de la baisse des chiffres?
Merci. Christian Mwando, il y a une question qui vous est adressée, on va l'écouter.
C'est Maître Papi Kassema à Kinshasa. L'on ne peut pas s'attendre à l'amélioration du social des Congolais avec ce projet de budget humiliant, dégradant et inhumain et qui n'est conçu majoritairement que pour le fonctionnement des institutions. À mon avis, l'Assemblée nationale a une grande partie de responsabilité quant à ce cas. Si elle jouait efficacement son rôle d'autorité budgétaire, Le gouvernement serait conséquent lors de l'élaboration et de l'exécution du budget. Par ailleurs, il est aberrant de constater que, tout en reconnaissant le caractère suicidaire des non-lois budgétaires et la négligence du gouvernement, l'Assemblée nationale les valise quand même et voilà pourquoi l'on soutient qu'elle n'est qu'une chambre d'enregistrement des décisions du gouvernement.
Honorable Christian Wando.
Je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant. Je pense que le Parlement, l'Assemblée, la représentation du peuple doit prendre ses responsabilités. J'ai suivi mon collègue de la société civile qui a parlé du vécu quotidien des populations. Moi, je vais vous parler chiffres. L'Assemblée nationale a voté pour 2015 pour les investissements dans les provinces, les territoires, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les routes et tout, 1103 milliards de francs congolais. Vous savez ce que le gouvernement a exécuté au premier semestre? 41 milliards de francs congolais. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez votre femme, vous lui promettez de lui donner 1 100 dollars à la fin du mois, et à la fin du mois, vous lui présentez 40 dollars. Pas 400, 40 dollars. Et le gouvernement fait n'importe quoi.
Alors, lorsque vous étiez ministre
des Finances... Moi, j'étais ministre des Finances du Katanga, j'ai exécuté mon budget. Je voudrais que vous me laissiez un peu parler. Par rapport aux 41 milliards qui ont été donnés pour les investissements dans les provinces, je vais vous lire les actions inscrites dans... Principalement, l'amélioration du processus de prise de décision publique. Le gouvernement a dépensé 226 milliards de francs congolais.
Il s'agit de quelle
rubrique? C'est là que la représentation nationale doit prendre ses responsabilités. On a dépensé 5 fois plus pour l'amélioration du processus de prise de décision publique que pour l'investissement dans les territoires.
Et donc vous êtes d'accord avec M. Papi qui estime que
l'Assemblée nationale avec la majorité mécanique ne joue pas son rôle. J'ai demandé hier moi-même en personne que le gouvernement soit sanctionné. Vous ne pouvez pas comprendre que on paye 41 milliards pour les investissements en province et dans les territoires. On paye 226 milliards pour le processus de décision. Et tenez-vous bien, on paye 53 milliards de francs congolais pour les frais financiers. Donc les intérêts bancaires sont payés plus cher
honorable
que les investissements dans les provinces.
Honorable, il y a un problème. Christian Wando, à votre avis, que faut-il faire pour améliorer cette problématique du budget en RDC?
Le budget, comme je l'ai dit hier, ne doit pas être un exercice de style. C'est-à-dire, parce qu'il y a un budget à présenter, on présente le budget et puis on ne l'exécute pas. L'Assemblée nationale, la représentation du peuple, vote le budget. L'Assemblée nationale doit suivre l'exécution du budget et doit sanctionner le gouvernement lorsque le budget n'est pas exécuté.
On espère que cette fois-ci,
il y a le bureau. Le bureau, déjà au départ, quand le bureau ne respecte pas le principe des rôles des gens que chacun doit jouer, il y a un problème. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation telle que cette majorité mécanique vote et il n'y a personne qui a jamais été sanctionné au niveau. Mais qu'est-ce que ça coûte à la majorité lorsque quelqu'un ne fait pas bien son travail de le sanctionner?
Merci.
Il n'y a pas de sanction, il ne peut pas avoir d'évolution.
Honorable Crispin Goy, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Dungu.
Crispin Alibou, territoire de Dungu, province de Haut-Uele. À mon avis, un budget irréaliste de 9 milliards de dollars par an, lorsque les réseaux mafieux des régies fiscales détournent environ 15 milliards de dollars par an. Quoi d'impossible au gouvernement Matata, par exemple, d'arrêter net les différentes hémorragies fiscales bien connues, ce qui augmenterait la taille budgétaire nationale qui repose au seul secteur minier, au dire de Matata Ponyo. Un budget semblable à celui de 2015. Le social et les élections priorisées, on nous dit. Et la sécurité est en priorité des priorités.
Oui, Crispin Ngoy.
Oui, je veux remercier mon homonyme qui répond Crispin comme moi. Effectivement, il a eu raison d'observer ce qui se passe effectivement dans notre pays. Je venais d'en parler avant qu'il n'intervienne, qu'il y a beaucoup de trous. Il y a beaucoup de trous.
Les coulages des recettes publiques.
Effectivement, il y en a beaucoup. Et le premier
qu'on n'arrive pas à boucher.
Oui, qu'on va boucher, puisque soyez convaincus que quelle que soit la qualité de l'homme, dont mon frère Christian Mando n'a pas pu boucher dans le Katanga, puisque dans le Katanga, on continue à couler, à faire couler encore les recettes. Il n'a pas pu le faire. Ces coulages de recettes seront bouchés progressivement. C'est voilà la raison pour laquelle plusieurs réformes sont entreprises.
Et qu'est-ce qui est fait concrètement pour que l'on puisse combattre, n'est-ce pas, les coulages des recettes publiques? Qu'est-ce qui est fait jusque-là concrètement?
Il y a la création de guichets uniques. Maintenant, nous tendons à l'informatisation des recettes de l'État, puisqu'il faudra se battre pour informatiser toutes les recettes de l'État sur toute l'étendue de la République afin de boucher ces coulages de recettes. Et ce qui est curieux, c'est quoi? Quand on est en train de faciliter ou de favoriser le coulage de recettes, on ne parle pas. Dès qu'on a déjà facilité le coulage de recettes pour faire les opérations retour autour de soi, et qu'on sort, on commence à dénoncer. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'on soit conséquent. Mais ça n'ira pas jusqu'au bout, puisque avec le temps, et petit à petit, c'était mal. Un mal très profond que nous avons dans le pays, qu'il faudra essayer de craser petit à petit. Et on finira par le craser.
Vous avez suivi l'honorable Christian Moineau qui estime qu'il n'y a pas de sanctions à l'Assemblée nationale. On ne s'est pas sanctionné.
Mais nous serons les bienvenus de les voir revenir à la cinquième année à l'Assemblée nationale et pour qu'il puisse, puisqu'il en a le droit, c'est un député national, et proposer la sanction. Je crois que toute la sanction, nous allons les soutenir pour que cela passe pour le bien-être de la population.
Alors, à part le coulage des recettes publiques qui doit être combattu, n'est-ce pas, pour améliorer cette problématique des budgets en RDC, que faut-il encore, à votre avis? Il y a aussi cette question de diversifier, n'est-ce pas, l'économie du pays.
Oui, et ça c'est la matière qui concerne les investissements. Les investissements sont en train d'être faits, mais soyez convaincus que ce n'est pas aujourd'hui qu'on plante, qu'on récolte aujourd'hui. On peut aujourd'hui planter, il faut attendre un temps pour commencer à récolter. Je vous ai dit que nous passions d'un budget de moins d'un milliard à un budget de 9 milliards, ça veut dire qu'il y a une certaine progression. Et cette progression prouve qu'il y a certains petits investissements qui sont en train de se faire, et nous voulons, notre souhait, que nous voulons c'est quoi? C'est agrandir ces investissements pour que le budget puisse continuer encore à augmenter davantage, afin que nous puissions répondre à l'intérêt de notre population. C'est pour lequel nous sommes là.
Monsieur Robert Kabakela, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu au Sud-Kivu.
Isaac Vamporic de Bukavu au Sud-Kivu. Si je comprends, le vote à l'Assemblée nationale est beaucoup plus motivé par les intérêts des familles politiques et la démonstration des rapports de force entre elles que par l'intérêt supérieur de la nation. Comment, dans un grand pays plein de potentialités comme chez nous, les députés peuvent se laisser convaincre par le seul argument de la baisse du cours du cuivre pour voter un budget minoré par rapport à celui de l'an passé? Quelle est cette révolution de la modernité qui ne se traduit pas par la performance dans la mobilisation des recettes? Le Parlement contrôle-t-il vraiment le gouvernement pour le pousser à améliorer son action?
Monsieur Robert Kabakela.
Mais ces compatriotes ont tout à fait raison sur toute la ligne. Rappelez-vous, à l'époque du Premier ministre Yandi, le Premier ministre, les patriarches Gizenga, pas n'importe qui, les ministres près du Premier ministre, a déclaré sur la place publique qu'il y a un détournement de la moitié du budget national. Il l'a dit sur la place publique. Le ministre de la Justice, je cite le professeur
Zolobambi,
a dit: chaque année, il y a une évasion fiscale de 20 millions, si je ne me trompe pas, mais moi, je me trompe, de 20 millions de dollars américains. Mais ce n'est pas n'importe qui.
Et la FEC avait parlé même de plus de 15 milliards de dollars américains.
Mais messieurs, avez-vous vu les procureurs de la République, les procureurs de la République ouvrir une enquête judiciaire? Le Premier ministre celui qui, après, celui qui est venu après les patriarches Gizenga.
Le Mozito.
Mozito est allé à Kisangani en personne. Il a constaté que les soldes les destinés aux militaires au front étaient en train d'être vendus sur les marchés de la place. Avez-vous vu une seule sanction? Voilà ce qui caractérise notre Parlement. Et donc, il y a des interpellations fantaisistes au Parlement. En fait, peut-être que je peux me tromper, je n'ai jamais vu un seul mandataire public interpellé à l'Assemblée nationale et sanctionné pour avoir, n'est-ce pas, détourné des deniers publics. Alors, je n'ai pas vu un seul.
À votre avis, à part le fait qu'il faut, n'est-ce pas, combattre l'impunité, qu'est faut-il encore faire pour améliorer la problématique du budget, dans la gestion du budget dans ces pays?
Je l'ai dit, il faut imaginer, il faut diversifier notre économie. Il faut que les intelligences réfléchissent sur comment est-ce qu'il faut transformer ce que nous avons comme ressources de sous-sol pour transformer ça vraiment en richesse, pour répondre, n'est-ce pas, aux besoins sociaux des citoyens.
Diversifier l'économie implique beaucoup de facteurs. Vous avez suivi l'honorable Crispin Goy qui a parlé des investissements, même pour attirer les investisseurs au pays. Il y a des conditions, n'est-ce pas,
qu'il faut au préalable remplir, notamment
l'amélioration du climat des affaires.
Effectivement, mais il faut commencer par sanctionner ceux qui détournent les biens de l'État. Il faut commencer par là. C'est parmi, n'est-ce pas, l'amélioration des climats des affaires. Ce n'est pas seulement ériger les guichets uniques, il faut sanctionner ceux qui détournent les biens de la République. Je vous donne cet exemple. Quand un officiel, pas n'importe qui, dit qu'il y a évasion fiscale d'autant des millions, des milliards de dollars américains, il y a détournement de la moitié du budget de l'État, et qu'on laisse passer, vous croyez qu'un investisseur sérieux ne peut pas se permettre de venir investir dans, sauf des commissionnaires?
Merci, honorable Christian Moindo. Ça sera aussi votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission. Une autre préoccupation, n'est-ce pas, par rapport à la gestion de notre budget, c'est la répartition, n'est-ce pas, de ces budgets qui semblent donner beaucoup plus d'importance aux institutions politiques au détriment du social. Comment solutionner ce problème, vous, en tant qu'autorité budgétaire?
Il y a au niveau du gouvernement actuel une volonté manifeste de ne pas aider les Congolais. Je l'ai dit hier dans l'hémicycle. Comment voulez-vous que sur un budget de plus de 8 000 milliards de francs congolais, on ne paye que 2 milliards à la dette intérieure?
Alors, parce que vous avez déjà ce manque de volonté, qu'est-ce que vous envisagez de faire, vous, en tant qu'autorité
budgétaire? Il faut rétablir l'économie nationale. Rétablir l'économie nationale, on doit aider les petites et moyennes entreprises. Aider les petites et moyennes entreprises, on doit commencer par relever les entreprises qui sont tombées en faillite par la faute de l'État. Pourquoi payer 85 milliards à la dette extérieure et nos compatriotes qui font le travail à l'intérieur du pays ne leur réserver que 2 petits milliards sur un budget voté pour la dette intérieure de 85 milliards.
Merci.
Il s'agit d'une injustice que le gouvernement devrait corriger, à défaut être sanctionné.
Merci, honorable Crispin Goy, votre conclusion.
Ma conclusion est que ce qui a été déposé à l'Assemblée nationale, c'est un projet. Nous allons l'adopter demain et il sera transmis à notre commission économico-financière, qui est une commission ouverte.
Donc vous annoncez déjà que le budget sera adopté.
Il sera adopté puisqu'on ne peut pas le rejeter, puisque le rejeter équivaut à rejeter le peuple congolais. Alors, cette commission est grandement ouverte, où nous attendrons et la société civile, et la population congolaise, et tout le monde,
merci,
à venir autour de cette table,
merci,
pour que nous puissions l'améliorer et le mettre à la disposition.
Robert Kabakela, pour les conclusions.
C'est une année électorale. Nous pensons que les gouvernements doivent disponibiliser les fonds pour nous permettre d'aller aux élections dans le délai constitutionnel. Parce que nous avons l'habitude de dire une chose, mais la concrétisation en est une autre.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Paul Badianyama qui était à la technique, à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, Alain Rung, Kéline Kouté, Berry Franklin, Luchaka, sous la supervision des Pélé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite du programme sur Radio Capi.